Bonjour à tous, c'est l'heure de la rétrospective de l'actualité économique sur votre radio, la radio Okapi. Mais tout d'abord, les titres. Fermeture d'une trentaine de ports fluviaux et de plus de 50 unités flottantes interdites de navigation dans la province de l'Équateur. Cette décision du ministre de Transport et de Voies de Communication le week-end dernier à Mbandaka est mal appréciée par les propriétaires des ports et embarcations. Pendant ce temps, dans le Bas-Congo, les opérateurs économiques se disent satisfaits de toutes les décisions prises par le gouvernement pour désengorger le port de Matadi. Les opérateurs économiques assujettis à l'impôt professionnel sur les bénéfices et profits ont jusqu'au 29 mars prochain pour déposer leur déclaration pour l'exercice fiscal 2012. Selon un communiqué de la DGI cette semaine, la Direction générale de la Direction générale des impôts exhorte les contribuables à souscrire à des déclarations sincères et exactes. Un atelier pour préparer les opérateurs économiques au grand forum sur le système OADA s'est clôturé vendredi à Kinshasa. La mise en œuvre en RDC de l'acte de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique de droit des affaires, c'est pour moins de 12 mois, avait interpellé le ministre délégué aux Finances. Panorama économique, c'est le retour sur l'actualité économique de la semaine sur Radio Capi. Nous recevons pour des commentaires et analyses Monsieur Job Mouindo, il est expert en gestion et développement organisationnel. Monsieur Job, bonjour et bienvenue à Panorama Économique.
Bonjour.
Devant ce micro, Daniel Tambinzoni et Paul Matindo pour vous retracer la rétrospective de l'actualité économique sur Radio Okapi.
Panorama Économique, le dossier.
Bonjour et bienvenue à notre rétrospective qui commence par cet appel de la DGI aux contribuables rappelant l'échéance du 31 mars 2013.
Selon le directeur général de la DGI, le 31 mars tombe un jour non ouvrable. L'échéance de la déclaration de l'impôt professionnel sur bénéfices et profits a été ramenée au vendredi 29 mars, le dieu jour ouvrable de la semaine. Dieudonné Lukadi, directeur général de la DGI.
C'est de rappeler d'abord à tous les contribuables qui sont concernés qu'ils doivent souscrire leur déclaration de l'impôt sur les bénéfices et profits de l'exercice comptable 2012 au plus tard à la fin de ce mois. Donc, en principe, c'était le 31 mars. Mais comme le 31 mars tombe un dimanche, nous les invitons à pouvoir s'acquitter de leurs obligations au plus tard le vendredi 29, étant donné que la déclaration doit être nécessairement accompagnée du paiement. Et les banques ont leur guichet ouvert jusque vendredi, généralement. Et nous tenons à insister sur le fait que les états financiers qui accompagnent la déclaration doivent être également bien remplis et être déposés aussi à cette occasion-là. L'absence de documents donne lieu à des amendes ou la non-souscription de déclaration donne lieu à l'application de la procédure de taxation d'office. Cette année-ci particulièrement, il y a une ordonnance loi qui a été prise dernièrement par le chef de l'État le 23 février 2013 qui fixe le taux de l'impôt sur le bénéfice pour les contribuables qui sont au droit commun à 35%. Je pense qu'il s'agit d'une occasion pour les contribuables de pouvoir s'ajuster par rapport aux années antérieures pour souscrire une déclaration qui soit sincère de manière à éviter qu'il y ait des redressements par les services de la Direction générale des impôts.
Vous insistez, monsieur le DG, sur la sincérité. Cela renvoie à penser peut-être que d'autres opérateurs économiques ne sont pas corrects dans leurs déclarations. Vous en avez déjà l'expérience?
Oui, parce que généralement, les derniers jours du mois de mars, nos services sont ouverts jusque tard, 22 heures, parfois même jusque minuit. Et nous voyons certains contribuables venir remplir leurs déclarations dans nos installations. C'est-à-dire qu'ils souscrivent n'importe quelle déclaration. Et là, lorsqu'il y a des redressements de la part de l'administration, il y a des gens qui crient au climat des affaires et tout ça. Alors que on a la responsabilité de pouvoir souscrire une déclaration qui reflète la comptabilité qu'on a tenue au courant de l'année. Parce que ce qu'on vient de poser comme déclaration auprès de la DGI, il ne s'agit pas de remplir des formulaires. Il s'agit de déclarer les éléments qui ressortent de la comptabilité régulière qu'on a tenue durant l'année 2012 et qu'on a clôturée au 31 décembre 2012. C'est pour cette raison que nous insistons, parce que nous voyons souvent qu'il y a des comportements qui ne sont pas très responsables.
Voilà, c'est le moment de retrouver dans ce studio notre invité pour des commentaires et analyses. Je vous le disais, il s'appelle Job Mouindou. Il est expert en gestion et développement organisationnel. Monsieur Job, vous avez suivi ce premier dossier. L'échéance du 31 mars approche pour les opérateurs économiques assujettis à l'impôt professionnel sur bénéfices et profits.
Oui, la question de l'impôt, c'est toujours une question cruciale justement pour les opérateurs économiques. Et vous voyez la dénomination qu'on a dit, on dit des assujettis à l'impôt. Ça montre en fait que la loi est dure, mais c'est la loi.
C'est un caractère très obligatoire.
C'est obligatoire et tous les opérateurs économiques sont appelés donc à respecter justement ce communiqué, cette disposition.
Et la DGI leur dit. Allez-y.
Mais bien sûr que ça tombe le dimanche 31 mars et on comprend bien justement que le communiqué a indiqué clairement qu'au 29, ce serait justement le dernier jour. Ah, je voudrais donc en fait me rassurer donc que ces 29 là, comme le directeur lui-même il l'a dit, que le 29 ils vont travailler aussi jusqu'aux heures tardives. Mais je voudrais tout de même indiquer que même si c'est d'un caractère tout à fait obligatoire, de préciser que jusqu'à preuve du contraire, il y a beaucoup de banques qui jusque là travaillaient samedi. Le directeur aurait dû aussi tenir compte de cet aspect que ceux qui pouvait bien effectivement s'inviter de cette autre tâche justement le samedi, qu'ils auraient dû tenir compte aussi de ces 30e jour.
Oui, monsieur Job, je crois l'avoir entendu dans la suite de l'interview, que ceux pour qui la banque ouvre encore ses guichets les 30, c'est-à-dire le samedi, ont encore des chances, mais en tout cas, du côté de la DGI, ils n'ont pas trop de confiance parce qu'on sait que les guichets sont souvent fermés le vendredi et puis le samedi, on les ouvre difficilement et à demi-journée aussi. C'est la crainte, il dit, l'État vit au moins le mois. Donc pour eux, le mieux, c'est de venir le vendredi 29.
Oui, mais je voudrais tout de même clarifier parce que bon, on a toujours justement apporté de conseils en gestion à certaines organisations, des entreprises. Une comptabilité qui ne fonctionne pas au jour le jour, de se rassurer qu'ils sont à jour, ce sont souvent ceux-là qui courent derrière justement les derniers jours. Mais quand on a un service de finance avec des comptables et des caissiers, que tout s'est fait normalement, au jour le jour, le travail du bilan, du travail de formation des résultats, de tout ce qu'il y a comme tableaux économiques, de tout ce qu'il y a comme tableau fiscal, tout ça, ça devient tout à fait automatique. Donc, la question, c'est d'être sûr qu'effectivement, et la date du 29, les opérateurs, ils devraient absolument, effectivement, respecter ça.
On suppose qu'au 31 décembre 2012, toutes les comptabilités, tous les bilans sont faits.
On suppose, justement, là, celui qui travaille sans bilan, qui est déjà, qui est étoffé, mais en dégageant effectivement le travail de formation des résultats, mais on va dire que c'est un opérateur, en fait, qui n'a pas de service qui fonctionne convenablement à ce moment-là. Il sera imposé taxes et il paiera des pénalités qui vont devoir retomber, justement, sur le bénéfice de l'entreprise.
Vous, en tant qu'expert en gestion, alors, par rapport à cette date du 29, quel conseil vous donnez aux opérateurs économiques qui ont encore une petite marge de, je crois non, aujourd'hui le 16, ils ont encore une marge de 13 jours pour s'exécuter et être dans le délai. Qu'est-ce que vous leur demandez?
Oui, en général, lorsqu'il y a des dates butoirs comme celle-là, il faut adjoindre à des comptables et des financiers des entreprises des conseillers fiscaux, des auditeurs, des gens qui peuvent justement venir soutenir immédiatement l'entreprise, de sorte que toutes ces dates soient respectées. Le directeur l'a dit, qu'il y en a qui remplissent rapidement
les formulaires les derniers jours.
Alors que il ne s'agit pas de formulaires, il faut adjoindre le bilan, le travail de formation de résultats, tout ce qu'il y a comme autre tableau économique, fiscaux. Et même, il faut d'autres tableaux de réévaluation qui ont été élaborés. Et on demande pour les grandes entreprises de se rassurer qu'effectivement, ils ont le solde d'autres impôts qu'ils doivent venir payer ça.
Voilà, on doit aborder le deuxième sujet maintenant. Les opérateurs économiques congolais appelés à conformer leur comptabilité au système OADA, dont l'acte de conformité sera bientôt mis en œuvre en RDC Paul.
Oui, Daniel, c'est l'appel du ministre délégué aux finances aux opérateurs économiques congolais lors d'un atelier qui s'est clôturé jeudi à Kinshasa. Michel Kifindangoy.
Plus la RDC avance vers l'entrée en vigueur du traité de l'OADA, plus les préoccupations augmente aussi bien chez les professionnels judiciaires que chez les opérateurs économiques congolais. Ces derniers redoutent que leurs petits capitaux ne soient engloutis par la multiplicité des capitaux étrangers. Face à cette préoccupation, le ministre délégué aux finances rassure. Patrice Kitebi.
Le gouvernement est très conscient que dans la perspective du développement, les capitaux qui financent le développement ne peuvent pas être que des capitaux d'origine étrangère. Sinon, il y aura une très grande fragilité et c'est extrêmement important que nous puissions travailler dans le sens de promouvoir la classe d'entrepreneurs locaux. Et cette réflexion est en cours, notamment par le biais déjà de cette loi sur le petit commerce dont on a parlé, mais aussi d'autres mécanismes d'appui à l'investissement, de soutien de manière en utilisant la fiscalité, de sorte que nous puissions avoir une classe des entrepreneurs nationaux. Vous savez que dans notre pays, malheureusement, quand on fait le classement, parmi les 100 premiers riches, il n'y a peut-être pas un Congolais. Ce n'est pas très normal.
La ministre de la Justice estime pour sa part que l'OADA va aider la RDC à résoudre beaucoup de problèmes dans le monde des affaires. Oui, Vin Mumba.
Je crois que l'un des grands problèmes de notre pays, c'est la taille immense du secteur informel. Ça signifie que beaucoup de recettes échappent à l'État. Et je crois que l'OADA apporte non seulement des facilités pour les petites entreprises, mais ce qui est important aussi pour nous, c'est ce que le gouvernement est en train de faire concernant la facilitation de la création d'entreprises par la mise en place d'un guichet unique qui permettra d'accélérer la création des entreprises dans notre pays.
Dans le cadre de la préparation de la RDC à entrer dans l'espace OADA, Wivin Mumba souligne que plus de 400 autres magistrats, greffiers et huissiers ont été envoyés l'année dernière en formation.
Merci Michel Kifindangoy et bon week-end chez toi. Dans ce studio de Panorama Économique, Monsieur Job, vous avez suivi les opérateurs économiques congolais qui doivent conformer leur comptabilité au système OADA. Mais il y a une crainte à côté aujourd'hui. Les gens ne sont pas très rassurés. Ils craignent de voir leurs petits capitaux congolais disparaître face à des capitaux étrangers qui viendront cohabiter avec elles dans ce système OADA.
Ah, encore justement une autre question. Bien sûr, le monde économique des affaires, ça va vite, c'est dynamique. Une organisation pour l'harmonisation en Afrique des droits d'affaires, je pense qu'on doit devoir effectivement faire la part des choses. Il est vrai que notre pays doit devoir effectivement se débattre pour atteindre aussi un seuil, le seuil d'autres pays qui sont économiquement déjà avancés. Mais je pense que ce sont les mesures d'encadrement d'une décision ou des décisions qui posent souvent problème. Il y a beaucoup d'opérateurs économiques qui se demandent en fait aussi au OADA, c'est quoi, comment ils vont faire, est-ce que ça va créer, ça va susciter d'autres nouvelles.
Mais ça fait déjà 3 ans que ce vocable dans dans l'espace des affaires congolais.
Mais c'est en septembre 2012 que justement nous avons le pays à adhérer
officiellement à
l'OADA. Ouais. Même si on en parlait, c'était dans 13 pays francophones qui se réunissent, qui se mettent ensemble et qui pensent qu'il faut uniformiser un système de droits d'affaires. Bon, c'est bien, mais est-ce que notre pays est déjà à un niveau, un standard qui puisse effectivement permettre à ce qu'on se lance vite dans une nouvelle politique économique rapide pour...
Oui,
je comprends bien parce qu'on doit devoir le faire, mais il faudrait des mesures d'encadrement. Un, c'est rassurer, parce que la loi, l'adhésion dit qu'il faudrait 2 ans pour que notre pays, pour que tous les opérateurs économiques puissent se conformer à ce système. Mmh. Il est vrai qu'il y a des forums, il y a un atelier, je pense, qui est en train de se passer à ce sujet. Donc les opérateurs doivent commencer à intérioriser, à comprendre ce que ça veut dire. C'est l'ensemble de toutes les affaires, entreprises, grandes, moyennes, petites, et doivent effectivement comprendre ce que c'est. Mais aussi, c'est rassurer que ça ne va pas avaler leurs petites économies, parce que ça, c'est la crainte. Donc, assurer d'abord une vulgarisation de tout ce qu'il y a comme loi au ADA, d'assurer aussi des mesures de suivi, mais d'être aussi sûr qu'effectivement, on va devoir préserver la petite économie du secteur informel.
Vous pensez donc que les opérateurs économiques congolais ne sont pas prêts?
Je voudrais dire que l'échéance de 2 ans est insuffisante. On devrait donner beaucoup plus d'échéance, puisque à part la vulgarisation, la compréhension du concept, là où ça va nous amener, ça demande au minimum d'une année. Il y a l'application maintenant. Ça va demander encore un temps suffisant. Il y a maintenant toutes les mesures de contrôle et d'évaluation, que est-ce que ça a marché, ça va vraiment se passer, parce qu'il faut évaluer pour se rendre compte du feedback qui viendrait justement des opérateurs économiques.
Okay.
Donc c'est 2 ans, c'est peu, il faudrait au moins 3 ans vraiment, selon les analyses d'autres experts.
Le troisième et dernier dossier de la semaine, une trentaine de ports et beaches sont fermés à Mbandaka, dans la province de l'Équateur.
Oui, Daniel, deux notes circulaires du ministre des Transports et Voies de Communication du 7 mars dernier expliquent cette décision. La première porte sur la fermeture de l'exploitation de certains ports et beaches qui ne remplissent pas les conditions exigées en RDC. La deuxième porte interdiction de naviguer à certaines unités fluviales, avec 30 ports fermés, 55 unités flottantes et des barges interdites de navigation sur le fleuve Congo. La province de l'Équateur aurait été les mauvais élèves. Régine Boukou-Manzangou.
Selon le ministre provincial des Travaux publics et Transports et Infrastructures, José Lomata, cette mesure fait suite à l'enquête initiée par le gouvernement central l'année passée. Celle-ci avait pour objectif de contrôler des unités flottantes, les personnels navigants ainsi que les infrastructures portuaires et des constructions navales. Le constat de cette enquête était amer. La plupart des ports et beaches de l'Équateur ne remplissent pas les conditions requises. Il manque des dépôts et même des installations hygiéniques. La plupart d'unités navigables sont vétustes, ce qui est à la base de plusieurs accidents de navigation. Cependant, cette décision est appréciée négativement par les propriétaires des ports et beaches de la ville de Mbandaka. Jean-Pierre Bompéli Mango, vice-président de l'association des tenanciers des ports, chef-lieu de l'Équateur.
Et brusquement, on vient de fermer les ports. Ça ne peut pas se faire ainsi. On doit nous avertir que voilà, ce port est fermé en cause de telle et telle et telle décision. Parmi les ports de Mbandaka, il y a plusieurs ports qui ont le beach et qui ont le bureau, les installations hygiéniques. Mais pourquoi tous ces ports sont fermés? Pour quelles conditions?
Ainsi, l'association des tenanciers des ports et beaches demande-t-elle au ministre de revenir sur sa décision en leur accordant un temps supplémentaire afin de se mettre en règle selon l'esprit des notes circulaires du ministre. Mbandaka, Régine Boukou-Manzango, Radio Okapi.
Par rapport à cette demande des tenanciers des ports et des unités navigables, le conseiller fluvial et lacustre du ministre de Transport et Voies de Communication que nous avons eu dans nos émissions économiques cette semaine, il pense que ces ports ne sont pas fermés pour de bon. Il suffit aux propriétaires de se présenter au service de l'État pour régulariser sa situation, rentrer dans les normes, et une fois fait, les ports seront ouverts au trafic et puis les unités seront aussi autorisées à la navigation. Nous parlons de ports et cette fois-ci c'est dans le Bas-Congo où les opérateurs économiques du secteur privé du Bas-Congo se disent optimistes et satisfaits quant aux décision prise il y a une semaine par la délégation du gouvernement qui a pris des décisions importantes visant le désengorgement du port de Matadi. Rapidement, Monsieur Job, c'est le dernier, troisième et dernier dossier de la semaine. Les ports sont fermés, les unités navigables sont interdites de navigation et ça crée un climat malsain au sein des opérateurs de ce secteur dans la province de l'Équateur.
Ok, vous savez, messieurs les journalistes, lorsque quelqu'un il est en train d'utiliser une action pour sa survie, il est tout à fait normal que justement les opérateurs puissent commencer à réagir immédiatement parce qu'ils n'ont pas d'autres solutions palliatives. Ils survivent de la pêche, du petit commerce sur le fleuve, sur les lacs, puisque le communiqué du ministre disait sur toutes les eaux en République démocratique du Congo, en Banaka, Tanganyika, le lac Albert, lac Tumba, un peu partout, lac l'autre lac au niveau de
Édouard.
Oui. Donc, et c'est partout. Et là, je me mets à la fois à la place de l'homme politique et de la population. C'est bien de prendre une décision. La décision est très bonne, mais il faut une solution palliative. Les gens, ils se fabriquent de petites pirogues de fortune ou des bateaux de fortune en dessous de ça et là pour se rassurer qu'on va devoir essayer
en
de
survivre. En l'absence de moyens que l'État met à disposition de la population.
L'État doit au moins arriver à initier des moyens qui sont appropriés, qui répondent aux standards. Ou à la limite, exiger des standards minimum adéquats pour se rassurer que au moins les gens ne peuvent pas directement connaître des accidents. Les gilets de sauvetage, il n'y en a même pas, et ça c'est le problème. Mais à la place de la population, c'est de dire mais que faire? Il n'y a que ça qu'on peut faire pour survivre, on n'a pas d'autre.
On risque de multiplier des accidents parce que oui, il y avait 50 embarcations, maintenant il va en avoir que 5. Tous les clients des embarcations ils vont venir se confiner sur celles qui sont autorisées de naviguer.
C'est très tout à fait normal. Mais ce que moi je pouvais peut-être demander quand même, au niveau du ministère de transport, qu'il parvienne à inventorier même les bateaux qui sont des niveaux standards acceptables et des pirogues des niveaux qui soient aussi acceptables, qu'on puisse mettre en place aussi des mesures de contrôle. Enfin, il faut avoir une solution palliative. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a à la place?
C'est le grand vide et c'est la grande question que tout le monde se pose. Ouais.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30, heure de Kinshasa, Radio Capi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Le reste de l'actualité en plus bref, une délégation de la Banque africaine de développement séjourne à Kananga depuis lundi. Elle est allée évaluer le projet de réhabilitation du secteur agricole et rural Pressar, effectif depuis 2006 dans plusieurs provinces de la RDC.
Selon les coordonnateurs du Pressar au Kasaï occidental, ce projet est financé par la BAD et le gouvernement congolais pour près de 15 millions de dollars américains et axé sur le développement agricole, la réhabilitation des pistes, les captages des sources d'eau, la construction des marchés. Le Pressar arrive à terme en mai. Il sera remplacé par le PADIR, projet d'appui au développement des infrastructures rurales. Ce projet va réhabiliter près de 500 km de route, capter d'autres sources d'eau et poursuivre la construction de nouveaux marchés.
Le ministre des Transports et Voies de Communication et la société française Alpha Airports ont signé mercredi à Kinshasa un protocole d'accord pour la construction d'une aérogare modulaire à l'aéroport international de Ndjili.
Pour un coût global de 22 millions de dollars américains, cette nouvelle aérogare de 10 mètres carrés répondra, selon la française Alpha Airport, aux normes internationales sur l'aviation civile. Les travaux de construction de cette aérogare commencent au début du mois d'avril prochain pour une durée d'exécution de 9 mois.
Bukavu, les opérateurs économiques importateurs du ciment se disent asphyxiés par les surtaxations de leurs produits.
Ils ont dit leur indignation à l'autorité provinciale à travers une lettre signée par les responsables des quatre établissements de la place. Il y a aujourd'hui risque de rupture de leurs activités, disent-ils, suite à cette situation. Pour illustration, un seul sac de ciment est soumis à 12 différentes taxes. Ils déplorent aussi le fait que d'un exercice à un autre, deux taxes sont passées de 1 à 5%, soit une augmentation de 500%.
La Fédération des entreprises du Congo, Olomami, dénonce les tracasseries administratives subies par les opérateurs économiques de son ressort.
Réunis en début de cette semaine en assemblée ordinaire, les responsables de la Fédération des entreprises du Congo, Kamina, disent avoir découvert au sein des services étatiques un chevauchement des taxes de l'industrie, petite et moyenne entreprise et du service de l'industrie. Pour son président, il existe une double taxation sur les produits agricoles. La FEC Olomami estime qu'il ne sera plus question pour les services de l'État de percevoir la taxe industrielle.
Panorama économique, reportage.
Une trentaine d'agents temporaires de la Direction générale de douane et accises Bandundu demandent à leur employeur l'amélioration de leur situation professionnelle. Ils ont observé un sit-in devant le bâtiment administratif de la DGDA ici même à Kinshasa depuis plus de 15 jours. Ces temporaires travailleraient pour certains depuis 2006-2009, voire 2014. Deux pour une autre catégorie. Ils travaillent ainsi pour le compte de la DGDA. Paul Matendo les a rencontrés dans leur mouvement de mécontentement et voici le reportage de la semaine.
Il n'y a aucune raison qui empêche que notre situation professionnelle ne soit régularisée jusqu'en ce jour. Les différents postes de la DGDA Bandundu génèrent des recettes à la hauteur de leurs assignations, affirment ces agents, parmi lesquels figurent quatre femmes. Ils citent par exemple le poste de Kwamout qui produirait à lui seul 4 500 000 francs congolais le mois. Témoignage.
Poste na poste batinaka déjà assignation pour un versement. Peto salaka yango. Assignation au batinaka na province à Bandundu. Toko kisaka yango. Tel que Kwamout. Tobi misaka recette ya 4 millions 500. Autoversaka par mois.
Dans les mémorandums qui tiennent depuis plus de 10 jours à remettre à la direction générale de la DGDA, ils demandent pur et simplement leur mécanisation. Et si la direction les accuse d'improductivité avance-t-il, la DGDA n'a qu'à mettre sur pied des équipes d'inspection pour le suivi du rendement de leur travail.
Ce qui nous a dit, déjà, il y a des bacs et les canacanas, à partir de là, il y a des bacs et tout ça, la recette, il y a des bacs et tout ça, la suivi. Il y a des bacs.
La direction générale de la DGDA s'est dit informée de cette situation, mais attend s'imprégner de tout le contour de cette affaire avant de réagir.
Voilà, c'était depuis mercredi que la direction générale de la DGDA a promis de réagir, mais jusqu'à ce jour, c'est-à-dire aujourd'hui, samedi, nous n'avons eu aucun écho de la direction générale de la DGDA à ce sujet. Monsieur Job, nous allons terminer notre émission. Un petit commentaire sur cette situation. Des agents temporaires qui ne savent pas ce qu'ils deviennent. Ils ne sont toujours pas mécanisés. Il y en a qui travaillent depuis 2002, depuis 2006, depuis 2009. Ils sont toujours des temporaires aujourd'hui. On est prêt à les mettre à la porte. On les accuserait d'improductivité.
Ça, c'est vraiment triste qu'un employé temporaire, qu'on appellerait journalier, puisse justement faire 5
années. Il y en a qui travaillent depuis plus de près de 10 ans maintenant.
10 années. Et on va justement dire après 10 années que c'est un employé productif. Non, la loi est claire. Quand on travaille de façon ininterrompue pendant plus de 22 jours, au jour le jour, ininterrompu, mais on a droit à un contrat durée indéterminée. Et donc, s'ils étaient journaliers, et à partir du 23e, 24e jour, c'est fini, ce sont des employés qui sont permanents. Et donc, on ne peut pas les mettre dehors s'il s'agit d'empocher ou d'attribuer des contrats ou de mécaniser. Ils sont prioritaires. Et donc, dans le cas au contraire, ça veut dire qu'on voudrait à ce moment-là se débarrasser d'eux. Ça va aller dans la catégorie des licenciements qui sont massifs. Et quand c'est massif, on doit devoir justement demander des autorisations du ministre du travail et donner de préavis ou payer vraiment conséquemment. Donc ça ne se fait pas. Et ces employés sont appelés aussi à se battre, à lutter jusqu'à ce qu'ils puissent obtenir leurs droits. Leurs droits étant, parce qu'il y a du travail, on veut empocher, d'être prioritaire, effectivement. C'est ça la loi, je ne sais pas si on peut s'en passer, sous quelle forme, sous quelle manière.
Merci Monsieur Job, vous êtes expert en gestion et développement organisationnel, c'est ça. Oui. On voulait juste dire un petit mot sur votre secteur d'activité avant de clôturer notre émission qui arrive déjà à la fin.
Oui, nous travaillons en groupe de recherche et innovation pour le développement et l'environnement. Et je m'occupe justement du chapitre de tout ce qu'il y a comme développement organisationnel, la mise en place de toutes les politiques, des stratégies pour que la structure puisse marcher. Mais nous avons travaillé avec beaucoup d'organisations et sociétés.
Comment
nous,
vous les assistez?
Oui, nous apportons des conseils en suivi, évaluation des projets et en gestion de changement, puisque le monde change, l'environnement change et les entreprises ne s'adaptent pas justement à ces changements. Et donc il faut effectivement assurer, apporter des conseils appropriés pour que les entreprises soient productives, atteignent des résultats qu'il faut.
Merci beaucoup, M. Job Mouindo. Vous êtes expert en gestion et développement organisationnel. Nous aurons peut-être le temps à des prochaines occasions à rentrer un peu dans le fond de ce que vous faites comme activité. Merci et c'est la fin de Panorama économique sur Radio Okapi. Vos suggestions, vos remarques, vous nous les envoyez à seoeco@radiookapi.net. Merci de votre fidélité à la suite du programme de votre radio. Bon week-end à tous.